Donc, la semaine dernière, on a vu comment la lecture de la Bible a commencé un mouvement qui a changé le monde en entier. Et ça a commencé juste ici, en Allemagne, en Suisse, en France, avec Luther et Calvin. C'était une révolution merveilleuse, c'était un retour à la Bible, à ce qu'elle dit réellement et comment on entre en relation avec Dieu. Bon, il faut dire que comme tout ce que l'homme touche, cette belle révolution a été salie par le péché et beaucoup de mauvaises choses se sont passées pendant cette période de réforme. Mais elle a quand même été décisive pour le reste de l'histoire de l'Europe et même du monde. Daniel a dit la semaine passée que parce qu'ils ont lu dans la Bible, ils ont pu prêcher seulement à Dieu toute la gloire. Donc pas de gloire aux leaders religieux de l'époque, pas de gloire à l'infaillibilité du pape. Ils ont aussi annoncé, parce qu'ils avaient lu leur Bible, que seulement la Bible comme règle de foi et de pratique. Pas toutes les autres décisions que les conciles au fil des années avaient prises. Ils ont annoncé la possibilité pour tous d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Plus besoin d'intermédiaires, plus besoin d'un prêtre, d'un évêque, du pape. C'est la redécouverte dans la Bible de la grâce par la foi. Tous peuvent se connecter à Dieu. Et je dis que ça a révolutionné l'histoire parce que ça donnait de la valeur aux personnes de toute classe sociale. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à dire « Toi paysan, toi commerçant, toi vigneron, tu peux découvrir Dieu personnellement. Tu as de la valeur. La Bible est aussi pour vous. On va l'imprimer dans votre langue locale. On va faire le culte dans la langue locale. Découvrez Dieu par vous-même. Vous avez toute l'autorité de faire ça parce que la Bible, elle le dit. » Et bien sûr, ça a rendu furieux les autorités religieuses de l'époque. Ils ont perdu leur statut de personne à qui il fallait s'adresser pour, par exemple, avoir les péchés pardonnés. Et si l'Église inventait une règle pour, par exemple, gagner plus d'argent, les chrétiens avec la Bible traduite dans leur langue pouvaient dire « Non, 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 c'est pas en accord avec la Bible, vous pouvez pas nous imposer ça, on n'accepte pas. » Et demain, c'est la commémoration des 505 ans du début de cette révolution, le 31 octobre. Mais plus qu'une révolution qui a commencé il y a 500 ans, tu te rends compte que tu sois croyant ou pas, les paroles que Jésus a prononcées et qui ont été mises par écrit dans la Bible ont un grand impact encore aujourd'hui sur la vie de beaucoup de personnes. Et c'est vrai. Si Jésus n'était pas venu, n'avait pas vécu ce qu'il a vécu et enseigné ce qu'il a enseigné, et si ces choses n'avaient pas été notées dans la Bible, beaucoup de choses auraient changé dans ma vie. Tout d'abord, je ne serais pas né au Brésil, parce que mes parents sont allés au Brésil pour annoncer ce qui est écrit dans la Bible. Ensuite, je n'aurais pas rencontré la belle fille qui était assise derrière là-bas, avec un uniforme. On s'est rencontrés parce qu'on voulait les deux connaître plus sur Jésus. Et donc, on s'est mis à lire ce livre et on a participé d'un groupe qui se réunissait pour étudier ce livre. Ensuite, on ne serait probablement pas en Suisse parce qu'on est venu pour proclamer le message de Jésus qui est écrit dans la Bible. Ce poste n'existerait pas. Nous, dans cette salle, on ne se connaîtrait pas. Ce site internet où vous écoutez ce message en ligne n'existerait pas. Un de ces jours, il y a quelques jours, quelqu'un est venu pour partager des difficultés. On a pu prier ensemble. Ça nous a rapprochés en tant qu'êtres humains. C'est parce que la Bible nous dit de le faire et ça crée ce genre de rencontre. J'ai déjà vu un homme assez bien placé dans la société couper des cartes de crédit et les jeter à la poubelle parce qu'il était saturé de faire des dettes. Et la Bible a des principes sur la gestion financière. Et quand il a découvert ça, il a pris cette décision. Il a été libéré de ce fardeau. Le week-end dernier, j'ai vu un couple de longue date renoncer aux mauvaises habitudes de leur mariage. Ils ont lu la Bible, ils ont voulu se conformer aux enseignements de Jésus et ils ont refait leur vœu de mariage devant tous ceux qui étaient là dans cette salle, une dizaine de personnes, pour commencer une nouvelle étape dans leur vie de famille. J'ai déjà vu des personnes être libérées du poids des erreurs du passé parce qu'ils ont compris qu'en Jésus, tout est pardonné, c'est fini. J'ai plus besoin d'être accablé en détresse par tout ce que j'ai fait de mauvais dans ma vie. Vous vous rendez compte? C'est vraiment incroyable. Réfléchissez. Un seul livre qui peut en même temps avoir une influence sur l'endroit où nous sommes nés, sur les rencontres qu'on fait, sur la personne avec qui on se marie, sur la possibilité de restauration d'un mariage, sur le rééquilibre de la vie financière de quelqu'un, sur une connexion spéciale qu'on peut avoir avec quelqu'un quand on prie ensemble et on recherche Dieu ensemble, sur la libération d'une culpabilité intérieure. Aucun livre au monde peut autant bien faire tout ça en même temps. Bien sûr, il y a des livres qui peuvent aider dans la gestion financière. Il y a des livres qui peuvent aider à rétablir un mariage. Mais tout ça en même temps, tout, en même temps, pour un seul livre, il n'y a pas. Quelqu'un qui a vécu il y a plus de 2000 ans en arrière peut encore définir toute mon existence aujourd'hui. Et c'est parce que ça a été écrit dans la Bible. Oui, ce chant est vrai. Sans ta lumière, Jésus, où serions-nous dans ce monde? Qu'est-ce que toi tu serais si tu n'avais pas reçu par quelqu'un les paroles de Dieu révélées dans la Bible? Tu serais où aujourd'hui? Quels auraient été tes choix de vie? Comment serait ta famille aujourd'hui? Pierre, le disciple de Jésus, il a très bien compris ça. Je mets en contexte, Jésus, il venait d'alimenter 5000 personnes et pendant la nuit, il traverse le lac avec ses disciples pour aller de l'autre côté. Et le lendemain, la foule revient en bateau à l'endroit où il avait fait la multiplication. Mais comme il n'est plus là, il commence à le chercher un peu tout partout. Finalement, quand il le trouve à la synagogue de Capernaum, ils le disent « Maître, quand est-ce que tu es venu ici? Quand es-tu venu ici ?» Comme si Jésus leur devait des explications. Hein. Mais au lieu de s'expliquer, Jésus voit les intentions de ce peuple et il leur dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » La foule, elle était là, pas parce qu'ils avaient compris qui était la personne qui faisait des miracles, mais juste parce qu'ils avaient envie d'un autre spectacle. En tant que co-officier de ce poste, j'ai envie de tout mettre en place pour que nos offres, nos messages, nos activités, nos espaces soient intéressants et accessibles à n'importe qui, avec n'importe quel bagage familial, intellectuel ou spirituel. Mais à la fin, le plus important, c'est que chacun réponde pour lui-même « Pourquoi est-ce que tu viens ?» Parce que c'est intéressant et sympathique, parce que tu reçois quelque chose ou parce que tu veux connaître Jésus. Jésus est la raison pour laquelle on parle avec les gens dans le bureau social, on joue de la musique avec la fanfare, on accueille des enfants et des jeunes. Et profiter d'une offre sans saisir ça, on le fait pour Jésus, ben c'est perdre la plus grande partie en fait. Mercredi passé, après plusieurs mois que le poste a commencé le travail parmi les Ukrainiens, on a eu la possibilité de faire quelque chose de spécial. On avait déjà reçu ces Bibles, il y a quelque temps, en ukrainien, pour offrir aux Ukrainiens. Mais avec l'équipe qui dirige, on avait pensé que ce n'était pas le bon moment d'offrir les Bibles. Pour pas qu'ils se sentent « Ouais, vous nous aidez juste pour parler de Jésus ». Et puis, un de ces soirs, Dominique, elle s'est réveillée la nuit et puis elle a senti, c'est le moment maintenant. On peut, après tous ces mois de service à la communauté ukrainienne, à toutes ces personnes qui viennent les mercredis, c'est le moment de leur offrir la possibilité d'avoir une Bible s'ils veulent. Et puis alors, c'est moi qui ai fait mercredi cette annonce. Ils savent que je suis l'officier de ce poste. Et puis, j'ai dit, on a acheté ces Bibles illustrées, ce sont en ukrainien. La majorité, ce sont des femmes avec des enfants. Hein. Donc, vos enfants peuvent lire et tout ça. On ne les a pas données. On les a dit, si quelqu'un veut, peut venir me demander et je vais vous donner. Que ce soit vraiment les gens qui veulent qu'ils reçoivent une Bible, pas que tout le monde la reçoive comme ça. Et puis, j'en avais 18 et il m'en reste 8 de ces Bibles. Et donc, plusieurs familles ont pris des Bibles, quelques-unes non. Mais je pense que quelques-unes de ces familles ne viennent pas juste parce que c'est un bon moment ensemble. Je pense qu'elles ont compris, elles viennent aussi pour Jésus. Quand on leur annonce pendant ces repas ce qu'on croit par rapport à Jésus, je pense que quelques-unes ont compris ça et puis elles viennent aussi pour ça. Pas seulement parce qu'on a un bon moment ensemble. Et Jésus donc corrige la foule et il leur dit, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que Dieu, que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. En résumé, il leur dit, ne venez pas juste pour recevoir à manger. Juste pour avoir un bon moment ensemble, juste pour jouer à la fanfare, juste pour amener quelqu'un de la famille une activité. Ne venez pas juste pour ça. Venez pour ce que je peux vous donner en plus. Quelque chose qui peut apporter une vie éternelle, c'est-à-dire une vie pleine de sens, une vie accomplie dans tout ce qu'on fait. Et alors la foule demande, et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'était très clair. Jésus, il a répondu très clairement. L'œuvre de Dieu, c'est ça. C'est juste que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais le peuple, têtu comme on est nous-mêmes, redemande à Jésus. Sur quoi? Et lui dire, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Il parle encore de nourriture. Il voulait que Jésus fasse descendre du ciel du pain, comme à l'époque de Moïse. Jésus a été très patient parce que moi j'aurais dit, hé, les amis, il y a des cirques à Rome, hein. Si vous voulez voir des spectacles, prenez un bateau et allez-y. Ou encore mieux, vous pouvez aller avec les lions au centre. Mais Jésus, il répond très patiemment encore, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu. Et vous ne croyez pas. Après ça, la discussion très fatigante continue encore. Jésus maintient qu'il ne va pas faire de spectacle, que lui, il est la source de vie. Et la foule continue à se poser des questions. Jésus, en réponse, commence à parler avec des comparaisons encore plus difficiles à comprendre. Et à un moment, Jésus se fâche et dit, mais cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Et après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? C'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. On remarque un certain épuisement de Jésus. Hélas, même avec tout ce que j'ai dit et j'ai fait, vous ne croyez pas. Même avec ce qui a été mis par écrit pour raconter aux générations futures, on ne veut pas croire. Et vous savez, Jésus sait qu'il y a des choses qu'il a dites qui sont difficiles à comprendre. Il sait qu'on murmure à l'intérieur à propos de telle ou telle chose qui est marquée dans la Bible. Mais il répond qu'on a besoin de l'esprit pour que la lecture de la Bible nous apporte la vie. Et il maintient que ses paroles sont dignes de confiance. Et finalement, j'arrive à Pierre. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Jésus dit alors aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Quelle déclaration de foi! Nous croyons et nous savons qui tu es. Regarde bien qu'il a compris l'essence du ministère de Jésus, lui. Il a dit en premier, c'est tes paroles, oui, tu as les paroles, c'est tes paroles qui apportent la vie éternelle. Pas le pain que tu as fait, le miracle, la multiplication des pains, non, c'est pas ça. Ensuite, il a dit, c'est croire en toi, et finalement, savoir qui tu es, l'essentiel dans la vie. C'est croire en Jésus et savoir qui il est, l'essentiel dans la vie. C'est pour ça qu'on ne va pas t'abandonner, même si beaucoup d'autres le font. C'est ça le pain qui nourrit. C'est ça qui apporte le sens à tout ce qu'on peut faire dans cette vie. Tes paroles. C'est pour ça que la Bible est beaucoup plus qu'un vieux bouquin. Elle contient les paroles de la vie éternelle que Jésus a prononcées. C'est pour ça, c'est par Jésus que c'est un livre exceptionnel. Par elle, on peut savoir qui est Jésus et on peut croire en lui. J'espère qu'au fil de ces 4 semaines, vous avez été motivés à continuer à le rechercher et à le découvrir dans sa parole. Même si on est en chemin depuis longtemps avec Jésus, on n'a pas fini d'apprendre, on n'a pas fini d'être conformé à sa parole. Il y a encore des choses à découvrir, à être fortifié, à connaître sur Jésus. J'aimerais prier avant la louange. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé dans ta parole. Tu as les paroles de la vie éternelle, on le croit Seigneur.